Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau DI d'opinion. Dans cette émission, nous allons parler de la Chine, parce que l'actualité récente, surtout internationale, on l'a déjà couverte, qu'en France, il se passe pas grand-chose. Donc voilà, on a un petit théâtre d'opération en ce moment sur l'Iran, mais nous avons déjà parlé de l'Iran. Et puis pour l'instant, il n'y a pas eu d'intervention au moment où nous enregistrons cette émission, donc pas besoin d'en refaire des caisses là-dessus. Je voudrais faire une émission, voire même une double émission, en fait, peut-être en deux parties, on verra ça, sur la Chine. C'est-à-dire parler de la Chine, qu'est-ce que c'est que ce pays, qu'est-ce que c'est que ce modèle, qu'est-ce que c'est que ce système politique, ce système capitalistique, commercial, voilà, avec quelqu'un comme vous qui connaît bien la Chine.
Vous savez, on dit toujours que si vous passez une semaine en Chine, vous la connaissez bien.
Ouais.
Si vous passez 3 mois, vous avez des doutes. Et si vous passez 30 ans, vous êtes certain que vous n'y comprenez rien.
Ouais.
La Chine, il faut être très très prudent quand vous l'approchez, parce que c'est un drôle de truc.
Bien sûr, il faut être très prudent. D'ailleurs, il y a plein de gens qui habitent dans leur propre pays sans parfois vraiment le connaître. Donc c'est vrai que c'est difficile de se faire une idée très générale d'un pays aussi complexe, sans doute, aussi qui est encore en pleine évolution. La semaine dernière, c'était il y a 2 semaines, c'était Louis Vincent qui est passé au bureau, et on discutait un petit peu de la Chine avec lui, parce que pour le coup, Louis Vincent connaît vraiment bien la Chine. Il connaît les principales entreprises chinoises vraiment dans le détail. Et lui-même avait fait ses études d'ailleurs là-bas.
Une partie de ses études à Nanjing et à Pékin, oui.
Voilà, et il disait que le plus gros changement que lui avait connu en l'espace de 20-30 ans, c'est que quand lui faisait ses études là-bas, il y avait 2 tiers de la population qui vivait à la campagne. Aujourd'hui, il y a 2 tiers de la population qui vit à la ville. Forcément, ça fait
et
un changement.
Et ceux qui vivent à la ville sont passés par des universités, des écoles. Donc, on est passé d'une main-d'œuvre de paysans, donc qui était, mettons qu'on mettait dans les usines, à maintenant une main-d'œuvre d'ingénieur, quoi.
Ouais.
Donc ça fait un sacré changement dans la qualité des produits, dans le genre de produits qu'ils font, quoi.
Ouais, c'est sûr. Et forcément, c'est un pays qu'on connaît, qu'on comprend assez mal de nos points de vue. Il y a certainement la barrière de la langue, la barrière culturelle. Il y a aussi des idées reçues, parfois un peu vraies, mais qui sont un peu, qui viennent un peu du passé, qui sont plus forcément si vraies que ça. Enfin voilà, c'est un mélange de plein de choses. Et ça fait plus de 10 ans, quand j'étais au collège, qu'on entendait à l'école que la Chine dépassera un jour les États-Unis et sera la première puissance mondiale. Donc l'idée de cette émission, c'est un peu de savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que c'est pas encore le cas? Est-ce que c'est le cas sur certains?
C'est déjà le cas, sans aucun doute, pour toute une série de secteurs industriels, du style les voitures, mais dans les secteurs de pointe, comme mettons l'aviation ou la haute technologie et tout, les États-Unis ont encore une avance, mais elle se réduit à vue d'œil.
C'est ça. Et alors là,
c'est déjà la première puissance industrielle du monde et de loin.
Ouais. Et puis là, il y a, comment dire, une mesure de la puissance, puisque finalement, on pourrait se poser la question, même qu'est-ce que la puissance? En général, on classifie les pays par puissance en fonction de la taille de leur économie. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'économie en elle-même qui est un facteur de puissance, mais que c'est révélateur quand même de tout un tas de vecteurs de puissance. Et alors, il y a deux classements à retenir quand même pour ça. Il y a le classement PIB classique qu'on connaît en dollars. Et puis après, il y a le classement aussi qui prend en compte la parité de pouvoir d'achat. Et alors, dans le premier classement, les États-Unis sont encore assez largement devant. Leur PIB est estimé à peu près 32 000 milliards. La Chine, on est plutôt autour des 20 000 milliards. Et ensuite, loin derrière, on a l'Allemagne, 5 000 milliards, l'Inde, 4 milliards, 4,5 000 milliards. Et après, si on prend en compte la parité de pouvoir d'achat, cette fois-ci, le rapport de force s'inverse entre la Chine et les États-Unis. C'est-à-dire que la Chine, on est autour des 40 000 milliards de dollars en parité de pouvoir d'achat. Les États-Unis, du coup, comme on reste en USD, on reste à 30 000 milliards. Et puis vient l'Inde, ensuite à 17 000 milliards. La Russie, 7 000 milliards. Le Japon, 6 700. L'Allemagne, 6 000. L'Indonésie,
Et donc, oui,
3 900,
ce qui est intéressant,
etc.
que vous mettez la Russie en parité de pouvoir d'achat. Or, au début de la guerre avec l'Ukraine, on nous a expliqué que la Russie avait un PIB inférieur à l'Espagne, que c'était grotesque et tout et tout. En fait, c'est pas vrai du tout. Ils sont à l'origine de toute une série de matières premières qui donnent ensuite de la valeur ajoutée dans tous les autres pays industriels. Mais s'il n'y avait pas ces matières premières russes, il n'y aurait pas les matières premières, la production industrielle. Donc,
ouais.
Il faut se méfier aussi de ces qualifications, parce que si vous êtes au début du processus, vous aurez peut-être pas un très gros PIB, mais vous serez indispensable.
Oui. Et on voit aussi, d'ailleurs, c'est pas du tout le même classement, hein, puisque le premier classement, c'est États-Unis, Chine, Allemagne, Inde, Japon, ouais. Royaume-Uni, France, Italie, Russie, Canada. Le deuxième, c'est Chine, États-Unis, Inde, Russie, Japon, Allemagne, Indonésie, Royaume-Uni, France, Brésil. Il y a beaucoup plus de pays qui viennent des BRICS, ouais. De l'axe aussi asiatique. Je pense à l'Indonésie, notamment, qui devient une grosse bah, puissance.
C'est le cercle de Valéry Pyrrhus, hein.
Voilà, c'est ça.
Le cercle de Valéry Pyrrhus, ça doit faire les trois quarts du PIB mondial, quoi. Voilà, ouais, on va arrêter des pouvoirs d'achat.
Ouais, on doit être. Ouais,
entre l'Inde, la Chine, le Japon, qu'est-ce qu'il y a encore, l'Indonésie, etc. Ça...
Oui, alors il y a une statistique, il paraît que l'Asie, de manière générale, représente 60% de la croissance mondiale aujourd'hui.
Oui, c'est ça. C'est
ce qui est déjà et à peu près 60% de la population mondiale, d'ailleurs. Donc ça se tient. Et alors déjà, pour expliquer aux gens, parce que il y en a qui suivent l'université de l'épargne parmi ceux qui nous écoutent et qui savent, à mon avis, depuis un certain temps, ce que c'est que la parité de pouvoir d'achat. Donc déjà, comment expliquer ce que c'est que cette notion? Pourquoi il y a un classement où les États-Unis sont premiers, l'autre classement où la Chine est première, qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous prenez une chambre d'hôtel, allez chez le Ritz-Carlton, allez.
Ouais.
Elle vous coûtera 1000 euros la nuit, hein, 1000 dollars la nuit hein, à New York, mais la même chambre d'hôtel à Pékin, elle vous coûtera 150.
Oui. C'est-à-dire qu'on a la même valeur, mais pas le même prix.
Voilà, et donc dans un cas, vous valorisez le PIB en fonction du 1500, dans l'autre, vous le valorisez en fonction des 150. Et donc vous dites, ben, la Chine est beaucoup plus petite que les États-Unis, mais il y a peut-être plus de chambres du Ritz-Carlton aux États-Unis, en Chine que en Chine, ouais, en Chine qu'aux États-Unis. Et tout ça, ça me rappelle, si vous voulez, c'est toujours la même idée, c'est que ce qui compte, c'est le pouvoir d'achat de la population.
Oui.
Et ce qu'on est en train de dire là, c'est que, on va vous dire, le salaire chinois, il est à 1000 euros, 1200, 1400. Donc c'est à peu près comme le salaire français. Mais avec ce salaire, le chinois achète trois fois plus de choses que le français. Donc vous voyez, ça veut dire que avec 1400 euros en Chine, vous vivez comme un nabab. En France, vous ramez. Hein. Donc, ouais. Donc on essaye de corriger. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le long terme, ce qui est très long, automatiquement, les monnaies retournent toutes à leur parité des pouvoirs d'achat les unes contre les autres.
Oui.
Ça veut dire donc que vous savez que dans nos pays, nos monnaies sont très surévaluées par rapport à la production qu'on fait, pour des raisons historiques, et que dans leur pays, les monnaies sont très sous-évaluées par rapport à la production.
Oui.
Donc vous vous dites, ben, si je veux mettre une partie de mon épargne en obligation, il vaut mieux que je sorte des monnaies surévaluées pour aller me coller dans les monnaies sous-évaluées, non?
Oui.
C'est ça. Donc c'est un arbitrage qui se fera naturellement, quoi.
Ouais.
Et ce qui se passe d'habitude, c'est que l'or sort des monnaies surévaluées pour aller dans les monnaies sous-évaluées, quoi. Donc vous suivez l'or, quoi.
Et alors quand on regarde l'évolution de ce classement sur les PIB en parité de pouvoir d'achat, déjà on voit qu'il y a des dynamiques très différentes. Alors je regardais le classement de 2018, donc c'était déjà il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Et en 2018, le PIB en parité de pouvoir d'achat de la Chine était de 25 000 milliards de dollars, donc il est passé à 40 000, donc c'est une augmentation quand même très forte. Pour les USA, c'est passé de 20 000 à 30 000 milliards, donc là aussi on a une évolution tout à fait respectable. Et en France, on a eu une augmentation de seulement 8%, puisqu'on est passé de 2962 milliards à seulement 3200 milliards. Donc là, pour le coup, on voit la stagnation économique dans laquelle nous sommes. C'est aussi un peu le cas pour nos pays voisins,
ouais.
Mais sans doute particulièrement pour nous.
Bah, c'est tout à fait évident. Si vous favorisez sans arrêt les gens qui ne travaillent pas et que vous défavorisez les gens qui travaillent, ben au bout d'un certain temps, tout le monde comprend qu'il ne faut pas travailler, quoi. Ouais. Ou qu'il faut aller travailler ailleurs. Donc, ce qui se passe, c'est que ben, vous avez une exportation massive, ce qu'on appelait autrefois la fuite des cerveaux, quoi. Ben, oui, en France, il se passe une fuite des cerveaux considérable. C'est compréhensible, hein.
Et alors, il y a quelqu'un que je connais qui aime dire que l'économie, c'est de l'énergie transformée.
Oui.
Et par conséquent, c'est par là que je voulais commencer sur ce qui se passe en Chine. Quelle est leur situation énergétique, déjà?
Le vrai problème de la Chine, si vous voulez, c'est de, comme c'est une puissance industrielle, etc., et qu'ils sont passés dans les villes, vous avez aujourd'hui une consommation d'énergie qui est très forte.
Mmh.
Et pour l'instant, et depuis un certain nombre de la plus grosse partie, ça reste le charbon.
Oui, 60% du mix.
60% de charbon. Alors la différence, c'est qu'il y a 10, 15, 20 ans, quand vous alliez à Pékin, il y a le charbon et tout, vous ne pouviez pas circuler, vous ne voyez rien, c'était tout noir, tout gris, il y avait du charbon, c'était dégueulasse. Aujourd'hui, ils ont fait des centrales à charbon qui sont quand même très propres. Enfin, ils ont utilisé les dernières technologies. Donc, ils ont développé donc les centrales à charbon, c'est un peu les coups de fond de cours, si vous voulez, au tennis, vous voyez ce que je veux dire. Et puis là-dessus, ils ont branché une énergie nucléaire, du gaz, des moulins à vent, ouais,
des miroirs magiques.
Des miroirs magiques, ils ont tout. Donc, ils ont maintenant un mix énergétique et ils sont en train de travailler, aussi curieux que ça paraisse, sur l'énergie nucléaire en utilisant le thorium, qui est un métal un peu comme l'uranium, sauf qu'il ne fait pas de saleté. Mais il a à peu près les mêmes. Donc, s'ils réussissent à aller vers le thorium, à ce moment-là, ben, on n'aura plus aucun problème de résidus, de pollution, en quelque sorte, les écolos pourront pas gueuler en disant que ça reste pendant 3000 ans avant d'être, bon.
Oui.
Donc, ils sont tout à fait à la pointe, ils ont repris un certain nombre de brevets qui avaient, au départ, été initiés en Allemagne pendant la guerre pour transformer du charbon en pétrole, ou en gaz. Et puis là, c'était passé en Amérique du Sud, un peu en Afrique du Sud, où il y avait les mêmes brevets qui avaient été pris par les blancs à l'époque où c'était les blancs qui gouvernaient parce que il y avait des, on leur avait collé des, qu'à cause de l'apartheid, on leur avait collé des pénalités, si vous voulez, donc ils pouvaient plus emporter de pétrole, donc ils le faisaient le même. Et maintenant, donc ils sont en train de faire un effort assez considérable pour transformer le charbon en combustible. Donc ils ont une situation énergétique qui, d'après les calculs que peuvent faire nos services à Pékin ou ailleurs, ils ont un coût de l'énergie qui est à peu près à 1, alors que les États-Unis sont à peu près 2,5-3, et nous, en Europe, nous sommes à 5 ou à 6. Mmh. Donc, ils ont aujourd'hui un avantage énergétique absolument considérable.
Ouais, je vois d'ailleurs que le coût de l'énergie est encore plus faible aussi pour les ménages, tout simplement, que pour l'industrie. Mmh. C'est-à-dire que, pour le coup, c'est vraiment pas du tout un problème pour les citoyens chinois, en fait, de tout garder allumé, de recharger leurs batteries, etc. Ça coûte vraiment pas grand-chose.
Et alors, là, on va avoir la prochaine réunion des associés de GAFCAL en avril, je crois, à Pékin. Moi, je crois pas que j'irai, mais et l'une des attractions de ce voyage, c'est que ceux qui iront, ils pourront aller voir le salon de l'auto chinois.
Ah oui.
Salon de l'auto chinois, ça va être quelque chose. Je regrette de ne pas pouvoir y aller parce que ça doit. Ce qui se passe en ce moment dans le domaine de l'automobile, les inventions, les voitures qui se conduisent toutes seules, il se passe des tas de trucs, quoi. Il y en a.
C'est assez impressionnant, la voiture, en fait, parce que ça fait partie aussi de tout l'axe technologique, finalement. Et c'est vrai qu'il y a il y a une grosse évolution des mentalités, déjà pour commencer en Chine, c'est-à-dire que il y a une quinzaine d'années, les jeunes Chinois, ils voulaient tous des Audi, des Mercedes, etc. Alors, il y a encore des voitures, notamment des Allemandes comme ça, assez luxueuses, qui se vendent en Chine, parce que, on va dire, c'est plus statutaire, c'est pas vraiment un calcul bénéfice-risque, on regarde même pas le prix, finalement. Si on est multimillionnaire, on veut absolument une voiture allemande. Mais, déjà, les perceptions changent complètement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une voiture, typiquement, je sais pas, une Audi à 60 000 euros, va être considérée comme du même niveau, voire même un peu plus bas de gamme qu'une voiture typiquement de 25 000, l'équivalent de 25 000 euros.
C'est
en Chine.
C'est qu'ils ont sorti par exemple une espèce de BYD là, qui est.
Oui, la BYD Seal.
Qui fait 1000 km avant de se recharger, ou je sais pas. Donc il se passe des trucs dans le domaine de la voiture. Et vous voyez très bien, vous regardez les exportations de voitures dans le monde, et puis bon, il n'y a rien du tout, vous ne voyez pas la Chine, et puis il y a à peu près 3 ans, d'un seul coup, il y a une courbe qui se met à monter de façon mais verticale, et maintenant, c'est les plus gros exportateurs de voitures au monde.
Ouais, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, nous, de notre point de vue, on connaît surtout les BYD, c'est celles qui s'exportent le mieux.
Il y a LG.
Voilà. Et après, il y a, Xiaomi aussi, qui fait tout un tas de trucs. Alors, ils font des batteries, ils font des téléphones, ils font des trottinettes, ils font aussi des voitures. Et il y a aussi XPeng, qui est une autre grosse marque automobile. Et j'ai vu qu'il y avait davantage de marques de voitures en Chine que dans l'entièreté du reste du monde.
Oui, oui. C'est-à-dire que Vous savez, quand vous lancez une industrie, comme par exemple l'industrie automobile, etc., quand vous êtes au début aux États-Unis dans les années 20, vous avez Ford, vous avez Chrysler, vous avez Studebaker, vous avez Plymouth, vous avez Pontiac, il y en a. Tout le monde lance sa base de bagnole parce que, et puis au bout de 30 ou 40 ans de lutte acharnée, il n'en reste qu'un ou deux, quoi. C'est, et donc, là, ils sont dans la période où tout le monde essaye de lancer sa bagnole, quoi.
C'est ça.
Y compris des gars qui font des téléphones ou autre chose, quoi.
Tout à fait.
Donc, ils disent, bon, c'est pas un problème, on va faire des voitures. C'est rigolo de penser que le gars qui, c'est des trottinettes ou des téléphones, je dis tiens, je vais faire une voiture aujourd'hui, quoi.
C'est vrai, mais à la fois, c'est vrai que maintenant, on attend des voitures, aussi tout le côté multimédia, etc. On le connecte avec son téléphone.
C'est
et du coup,
salon,
voilà, il y a tous les systèmes de compatibilité. D'ailleurs, il y a quelques années, Apple pensait aussi se lancer dans l'automobile. Au final, ils ont dit que non. Mais voilà, il y a les systèmes de compatibilité.
Il y a des compléments aussi. Mon fils a vu une voiture parce qu'il est allé se balader pour aller voir tous ces gars-là en Chine, là, récemment. Il y en a un qui l'a beaucoup aimé, c'était une voiture qui a un drone.
Oui, alors ça, oui, il m'a raconté.
Il a un drone, donc il vole au-dessus de la voiture en même temps que la voiture, qui est 30 ou 40 mètres avant, pour voir s'il n'y a pas un obstacle, un animal qui va traverser, etc. À ce moment-là, le drone donne l'ordre à la voiture de s'arrêter, quoi.
C'est
pour éviter les sangliers qui traversent la route ou les c'est rigolo, donc la voiture qui a son drone au-dessus, quoi.
Oui, alors ça évidemment en ville c'est plus compliqué, mais en dehors des villes effectivement la voiture a son drone 50 mètres devant et vous renseignez l'itinéraire en fait puisque la voiture se conduit toute seule et en fait ce qui est intéressant c'est que nous on la technologie pour les voitures qui se conduisent toutes seules, Tesla faisait déjà ça il y a une dizaine d'années. Bon, c'était pas tout à fait au point, mais enfin c'était globalement fonctionnel. Et on met énormément de temps à l'adopter. Et ce qu'expliquait Louis-Vincent, c'est que en fait aujourd'hui, c'est plus tellement la société qui décide par elle-même de ou bien de conduire ou bien de pas conduire, mais c'est les compagnies d'assurance qui décident de dire mais moi je ne vais pas vous assurer si vous n'avez pas la technologie pour la voiture autonome. Et voilà. Et donc maintenant, alors, il y a la technologie celle qu'utilisent surtout les voitures chinoises, c'est les LiDAR. En fait, c'est une espèce de sonar qui envoie une onde qui la reçoit, etc. Et il y a quelques années, ça coûtait plusieurs milliers de dollars de fabriquer un truc comme ça, donc c'était un truc complètement démentiel à ajouter sur sa voiture. Et aujourd'hui, il m'expliquait, Louis-Vincent, que ça coûtait 200 dollars. Et qu'il y a une entreprise chinoise qui construit 80% des LiDAR au monde, donc qui est quasi monopolistique.
Voilà, qui est monopolistique. Et c'est là où on voit justement que cette espèce de système de production très concurrentiel aboutit à ce qu'on pourrait presque appeler des monopoles, des monopsones d'un seul vendeur. Et là aussi, c'est un problème, parce que si vous avez une voiture, vous voulez mettre un système de pilotage automatique, il faut que vous ayez le système chinois. Et peut-être il va vous le vendre à 1000 dollars, alors qu'il va aller aux autres en Chine à 200, quoi. Ce que je veux dire, de toute façon.
Après, il faut aussi qu'il s'impose sur les marchés internationaux. Et d'abord, il faut bien, convaincre le consommateur avec un prix quand même très attractif.
Oui, mais le consommateur, on lui dit si tu prends pas cette voiture, tu seras pas assuré. Alors évidemment,
ça c'est vrai.
Ça aide, hein. Et tu seras assuré peut-être par une assurance chinoise d'ailleurs, qui vous assurera moins cher que l'AXA de service, quoi.
Oui, c'est une possibilité aussi.
Ben oui.
Et alors aussi, ce que je trouvais intéressant, encore une fois sur l'énergie, c'est que la Chine fait des réserves de pétrole. Elle achète à peu près 11 millions, même 11,6 millions de barils par jour, ce qui est quand même assez énorme par rapport à la production mondiale. Et c'est-à-dire que la Chine se rend elle-même presque indépendante du prix du pétrole. C'est-à-dire que si jamais il y a une augmentation du prix du pétrole, ils auront au moins quelques mois pour...
Et en plus, si vous voulez, ils ont signé des contrats pour le gaz, etc., qu'il y en a un système gazier qui arrive maintenant de Sibérie, etc. Et donc, ça, ces contrats sont à prix fixe à long terme, quoi. Donc,
tout à fait.
Donc ils sont...
Tout à fait. Ça, ils viennent effectivement de... On en parlait d'ailleurs il y a quelques mois par rapport à ce qui se passe en Asie, etc. C'est le gazoduc Power of Siberia 2, qui est financé, en fait, à 90% en rouble et en yuan. Donc là aussi, on a en plus de ça l'utilisation des monnaies locales.
C'est un facteur
assez important.
Et on se rend bien compte, si vous voulez, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à plusieurs reprises, c'est aussi dans mon dernier bouquin, mais dans le temps, tout le commerce entre la Chine, la Russie, etc., ça serait passé en dollars. Donc, mais les Américains sont rendus tellement populaires dans toute cette zone que plus personne ne veut utiliser le dollar. Ça va se passer en monnaie locale avec des swaps, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Et donc, c'est la première fois qu'on va avoir le développement d'une zone immense en Asie, donc, qui ne se fera pas avec une monnaie anglo-saxonne, soit la livre, soit le dollar.
Ouais.
Déjà ça, c'est un changement incroyable.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on aura, bah, on aura du yuan, on aura du dollar de Hong Kong, on aura du dollar de Singapour, on aura du dirham.
La hausse du crédit qui va avoir lieu se fera sans aucun doute en dollars de Hong Kong. Ouais. C'est-à-dire que ce sera comme le dollar US, mais que les États-Unis ne contrôlent pas.
Mmh. Ouais.
Donc là aussi, ça change tout, quoi.
Ouais. Et je trouvais ça très intéressant. Je n'ai pas réussi à le retrouver pour cette émission, mais je voyais il y a quelques jours un graphique qui montrait le prix de l'énergie, notamment de l'électricité, qui comparait le prix de l'électricité ces dernières années en Chine et en Allemagne. Et qui montrait que en Chine, alors que la production industrielle montait drastiquement, les prix restaient assez stables.
Oui.
Alors qu'en Allemagne, ils explosent. Alors que on a une, c'est l'inverse. On a la production industrielle qui stagne.
Parce qu'ils n'ont pas fait les investissements. Là, les Chinois, ils ont fait ça depuis 10, 15, 20 ans. Donc ils ont bâti des systèmes énergétiques rationnels. C'est-à-dire que vous avez en même temps une centrale nucléaire à côté d'un moulin à vapeur ou j'en sais rien, et puis d'un lac pour faire monter ou baisser le lac. Donc ils ont bâti un système qui est optimum dès le départ. Parce que nous, historiquement, on a ajouté des trucs, et là, avec l'Allemagne, il y a quelques années, Madame Merkel, ils ont supprimé tout le nucléaire, et ça leur a laissé un trou béant, quoi. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte que la Chine n'a pas de contrainte d'électricité, alors que, pour ainsi dire, partout ailleurs dans le monde, les prix de l'électricité à cause de l'intelligence artificielle explosent.
Mmh.
Donc on se rend bien compte que, bon, ils n'auront peut-être pas les meilleurs programmeurs, ou j'en sais rien, mais les seuls qui auront l'électricité pour faire tourner l'intelligence artificielle, ça va être les Chinois. Les Américains, ils peuvent toujours se brosser. Vous regardez le prix de l'électricité, ça monte sans arrêt. Il y a des tas d'États qui se révoltent contre l'intelligence artificielle en disant non, on n'en veut pas de ce truc-là.
Ouais.
Parce que ça fait monter le prix de l'électricité chez nous, dans notre État, et on ne veut pas en entendre parler.
Ils ont 33 centrales nucléaires en construction, les Chinois.
Et nous, ça fait à peu près 15 ans qu'on en a une en construction à Flamanville, en Russie, jamais la mettre en route.
Le fameux EPR de Flamanville, ça fait depuis que j'ai 12 ans que j'en entends parler. J'en peux plus.
Donc, si vous voulez, quand vous avez 33 centrales nucléaires en construction et 40 aéroports en Inde, vous dites, je sais où va se passer la croissance, quoi.
Oui.
Vous n'avez pas la peine de vous embêter, c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Hein.
Et si vous êtes un acteur international, que vous voulez vous mettre dans le cloud, dans l'intelligence artificielle, forcément, ça va être plus intéressant de se mettre là où l'énergie est assez peu chère. Alors après, derrière, ça veut dire, c'est aussi un secteur très stratégique parce que c'est énormément d'informations et ne se met pas dans le commerce de data center qui veut en Chine. On a forcément aussi un contrôle des capitaux, etc. Donc ça veut dire, c'est stratégiquement
on arrive
risqué.
Au truc très embêtant de savoir si vous préférez que ce soit les services secrets chinois qui soient au courant de tout ce que vous faites ou la CIA, quoi. Ça va être un moment de, il va falloir faire des choix douloureux, quoi.
Ouais, tout à fait. Et encore une fois, par rapport à l'intelligence artificielle, on entend souvent parler des terres rares. D'ailleurs, pas que par rapport à l'IA, hein, mais par rapport à tout
la défense.
Tout un tas de matériel militaire, mais même, en fait, même pour faire des voitures aujourd'hui, même pour faire des téléphones, on a besoin de ces trucs-là. Et là-dessus, alors déjà, les ressources d'extraction, la Chine en détient déjà 60% du stock mondial, c'est assez important. Et derrière, il y a toute la procédure de raffinage qui est encore plus importante. Et là, c'est plus de 90%
de la chaîne. Oui, parce que c'est dégueulasse. Ça fait une pollution, pas possible. Alors tous les Européens, tout ça, lèvent une narine dégoûtée en disant... Pas ça chez nous, mais pas ça chez nous, ça me paraît une excellente idée, mais ça veut dire qu'aussi, il n'y aura aucune croissance chez eux, quoi.
Oui, et puis, c'est en dehors du fait que ce soit dégueulasse, c'est aussi des procédés industriels, qualitatifs. C'est-à-dire, ça demande des vrais ingénieurs de faire ça, c'est pas juste des petites mains. Et donc aujourd'hui, on n'a juste pas la masse, en fait. On a pas le matériel industriel.
Ce que me disait Louis Vincent, c'est que chez BYD, là, ils ont plus d'ingénieurs dans l'automobile là qu'il n'y en a dans toute l'Allemagne. Donc une société a plus d'ingénieurs au travail que tous les ingénieurs allemands. Ça vous inquiète, hein?
Ouais. Et il me semble que leur département R&D il y a plus de gens que dans l'entièreté de l'entreprise SpaceX.
Voilà.
Bon, on imagine que SpaceX c'est quand même solide en termes de R&D, quoi.
Oui, alors c'est ça qui est étonnant, c'est encore une fois, on revient à ce que disait Staline, c'est qu'il disait, les chars allemands, là, les Tigers sont meilleurs. Mais si j'en fais, donc il peut se dégommer 3 ou 4 de mes chars à moi, mais si j'en fais 10,
oui.
Il y en a bien un des 10 qui se paiera le tigre. Et on voit l'effet de masse maintenant, c'est gigantesque, cette espèce d'avalanche qui nous arrive, de produits, de services, etc. Donc c'est ça qui est impressionnant, c'est que d'un seul coup, vous avez un pays qui explose dans tous les domaines, quoi.
Ouais, c'est pour ça que c'est très dur en l'absence de, comment dire, de combat direct, de dire c'est laquelle la meilleure armée, surtout que c'est...
Oui, leur armée a toujours été nulle.
Voilà.
Je veux dire, il faut savoir que les Chinois n'aiment pas du tout l'armée, dans leur, ouais. Le système confucéen, c'est celui qui est tout en bas, le soldat. Et donc, ça ne les intéresse pas beaucoup, l'armée. Et la Chine, je crois, n'a jamais envoyé quelqu'un dans les 500 dernières années, quoi. C'est pas un pouvoir impérialiste pour une raison très simple, c'est que c'est une espèce d'énorme île. Donc vous avez d'à côté là-bas les plaines d'où sont venus les Mongols. Puis en face vous avez le Japon, mais en fait ça c'est ils sont bien embêtants ceux-là aussi. En sud il y avait les montagnes, et puis au nord-est vous avez le Tibet. Donc en fait vous pouvez imaginer la Chine comme un continent qui est un peu et donc pour eux ils appellent ça l'empire du milieu. Mmh. Et le reste du monde ne les intéresse pas du tout. Et ça veut dire que... Et donc, la Chine a toujours eu une vieille tendance, de temps en temps, c'est de dire, c'est gars à l'extérieur, ils nous font brère. On va maintenant se replier chez nous, on ne va plus travailler avec eux, quoi. Donc, c'est ce qui leur arrive fréquemment, mais ce n'est pas le cas en ce moment. Hein.
Alors après, il y a quand même un truc qui les intéresse, c'est un peu chez eux, mais c'est la mer de Chine.
Oui.
C'est-à-dire que notamment, leur gros problème en mer de Chine, d'un point de vue ne serait-ce que stratégique, c'est que la mer de Chine est assez peu profonde. Donc nous, par exemple, quand on envoie un sous-marin nucléaire à partir de Brest, directement, il peut se dissoudre, il peut être indétectable. Et en mer de Chine, c'est beaucoup plus compliqué, et donc c'est pour ça qu'ils se poussent le plus loin possible, et donc ils défient un peu tous les pays qu'il y a autour, notamment tout ce qui est Philippines, en particulier. Et ils utilisent d'ailleurs une très vieille méthode qui est l'épronage, c'est-à-dire qu'on ne veut pas tirer sur leur bateau, mais on va les éprôner, c'est-à-dire qu'on les fait couler comme ça physiquement, mais on considère qu'il n'y a pas de guerre. Et là-dessus, ils les défient ouvertement. Et d'ailleurs, il y avait eu un incident diplomatique avec la France, puisqu'il y avait une frégate française qui avait franchi illégalement, selon la Chine, le détroit de Taïwan pour l'anniversaire de je ne sais plus quoi, il y a quelques années, je crois que c'était en 2019. Et d'ailleurs, du coup, la France avait été désinvitée par rapport à ça, ça avait créé tout un incident diplomatique. Donc là aussi, la Chine avance un petit peu ses pions dans cette mer.
Ça correspond exactement. Si vous voulez, autrefois, la Chine, à l'époque où la Chine était, il y avait avant quand les Européens arrivent, etc., il y avait une espèce de d'habitude, c'est que le roi au Vietnam ou l'empereur, il envoyait ses fils se faire éduquer à Pékin, et puis il envoyait deux ou trois bouquets de fleurs dans l'année pour montrer qu'il était un féal, que c'était. Donc ils envahissaient pas le Vietnam, mais ils voulaient que le Vietnam reconnaisse la supériorité de la Chine, quoi. C'était. Et donc ça se passait un peu partout. Donc la Chine, c'était un pays, il se satisfaisait de déclarations d'allégeance sans qu'il y ait beaucoup d'argent à la clé, mais c'était juste pour éviter que. Et c'est ce qu'ils recommencent à faire.
Oui.
C'est ce qu'ils recommencent à faire. Ils disent. Alors, le problème, si vous voulez, dans tout ça, quand vous réfléchissez comme ça, c'est le Japon, qui lui a toujours refusé de faire une déclaration d'allégeance avec la Chine, et puis qui les avait envahis, puis qui a fait de très jolis massacres. Mais donc, ce qui fait que les Japonais ne sont pas très aimés en Chine. Mais quand même, donc, il y a un moment ou un autre, l'un des trucs du Japon, ça va être qu'elle fasse passer son allégeance, en quelque sorte, des États-Unis à la Chine, quoi.
Oui.
C'est là où ça va devenir intéressant.
Bien sûr, mais en fait, d'ailleurs, on est actuellement dans une phase de test, très long terme, pour savoir un peu, finalement, les États-Unis, est-ce que ça les intéresse encore de soutenir quelques puissances du coin, typiquement, encore une fois, que ce soit le Japon ou les Philippines. Et d'ailleurs, les États-Unis font généralement des opérations où ils font exprès de juste passer les lignes qui sont censées être interdites, juste pour dire non, mais on est toujours quand même dans le coin. Mais enfin, bon, il n'y a pas trop d'incidents, et à chaque fois, les deux. se teste un peu.
Ils envoient probablement dans les jours qui précèdent le trajet du bateau où il va passer, en disant
c'est possible.
On va casser ces lignes là, mais vous inquiétez pas, c'est juste pour montrer qu'on est toujours là.
Ouais.
Il faut faire très attention, si vous voulez. C'est comme parfois les pays en bisbille se parlent.
Oui,
et donc
sûr.
On va faire une démonstration pour notre population, mais surtout vous nous prenez pas au sérieux, quoi. C'est,
oui, oui. C'est comme il y a quelques mois quand l'Iran avait
bombardé
le Qatar, et ils avaient prévenu en avance en disant bon, faut pas que vous soyez trop étonnés,
voilà,
vous inquiétez
pas,
c'est
enlever
pas
les bateaux, enlever tout.
Voilà. Enfin bon.
On veut tuer deux ou trois chameaux, c'est tout, quoi.
Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est leur façon de concevoir la politique intérieure. Parce que, alors nous, on a une image, surtout en tant qu'Européens, d'Occidentaux, on a une image assez binaire entre, surtout héritée en fait du XXe siècle, on se dit, il y a la démocratie libérale, celle qu'on connaît, celle dans laquelle nous sommes, et puis après, il y a les régimes autoritaires, voire même dictatoriaux, c'est-à-dire on imagine les régimes fascistes, les régimes communistes, etc. Alors la Chine, théoriquement, est un régime communiste, et d'ailleurs, il y a eu Mao, voilà, et...
Mais oui, et depuis, ça a bien changé.
Voilà, depuis, ça a bien changé, mais ce qui est assez amusant, c'est qu'à la fois, le Parti communiste chinois revendique la continuité historique avec cette époque-là.
Oui, parce que pour eux, c'est très important, c'est-à-dire que la légitimité, ça se bâtit sur l'histoire. Donc, par exemple, tout le monde sait que Mao était une ordure, un assassin, enfin bref, Staline, quoi. Peut-être un peu pire encore, mais il est sur tous les billets.
Oui.
Parce que il a été empereur à un moment. Bon, ça n'a pas été le meilleur empereur, mais et c'est lui qui a fait renaître la Chine politiquement dans une puissance dans le monde. Donc, encore une fois, ce qui est très surprenant, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même notion du temps que nous. Ils ne sont pas pressés, quoi. Ils ont dit. Et vous le voyez très bien dans quelque chose comme Taïwan. Tant que Taïwan ne devient pas atomique, et tant que Taïwan ne devient pas indépendant, et que tant que Taïwan dit « je resterai, on fait partie du même pays », ils n'enverront jamais Taïwan.
Oui.
Parce que pourquoi envahirait-il un pays qui se reconnaît comme chinois ?
Oui.
Ce qui compte, c'est qu'ils se reconnaissent comme chinois, pas qu'ils se reconnaissent comme communistes, quoi. Donc, encore une fois, la Chine, c'est beaucoup plus important que le communisme.
Oui, et puis vous disiez, de toute façon, sur toute la question Taïwan, pourquoi c'est aussi stratégique, c'est un peu pour la même raison que pour les terres rares, c'est pour les fabrications de puces, les TSMC, etc. Et vous disiez un truc il y a quelques années, c'est que pour la Chine, ce serait en fait plus intéressant de juste acheter tous les ingénieurs de Taïwan plutôt que d'envahir militairement l'île.
Ils savent très bien que il y a toute une série de régimes autoritaires qui ont disparu dans l'histoire parce qu'ils ont été faire la guerre, comme les militaires argentins ou les colonels grecs, etc. Donc, quand on est un truc autoritaire, c'est pas une bonne idée de commencer une guerre, parce que si on la perd...
Oui, ça peut partir en bisbille, ouais.
Ça part. Donc, je crois pas qu'ils sont... Par contre, ce qu'ils sont en train de faire, en ce moment, au moment où on parle, c'est qu'à l'évidence, ils sont en train de liquider le personnel dirigeant de l'armée.
Oui, alors oui, il y a une purge interne, effectivement.
Il y a une purge interne, ce qui
a été mise sur le dos d'une tentative de coup d'État.
Ils connaissent bien l'histoire, ils savent très bien que la Révolution française s'est terminée quand Bonaparte est arrivé. Donc dans la mythologie marxiste, les révolutions populaires se terminent souvent avec un général qui arrive et qui met tout le monde en prison et qui fait tirer boulevard Saint-Denis, quoi. Je sais plus quand Napoléon avait fait tirer, c'était je sais plus quel boulevard. C'est une révolte. Donc, de façon générale, il se méfie profondément des militaires. Donc, et il faut dire ce qui est, c'est que l'armée populaire nationale, l'armée nationale populaire, c'est vraiment maintenant une force économique qui a des usines, des trucs, des machins à eux, etc. Donc, il doit y avoir de l'argent qui circule, qui n'est pas bien contrôlé, là.
C'est tout à fait possible. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans leur façon de faire de la politique et de gérer leur pays, c'est que, alors, rien n'est possible en dehors du parti. C'est clair et net. C'est impossible d'avoir une véritable opposition en dehors du parti. En revanche, il y a plusieurs factions politiques au sein du Parti communiste.
Absolument. Vous avez les gars de Shanghai, les gars de Pékin.
Voilà. Il y a des libéraux, il y a des modernistes, il y a un peu de tout. Et du coup, il y a différents courants qui s'affrontent d'un point de vue intellectuel. Il y a quelques notions de vote même. Et après, c'est surtout en tant que citoyen, vous pouvez surtout participer en fait à la politique à l'échelon local, en fait à l'échelon du quotidien. Et ça, c'est assez possible quand même de dénoncer des cas de corruption, des choses qui sont assez mal gérées à l'échelon local, parce que le parti se dit, si on ne gère pas bien cette chose-là, à long terme, ça nous met en danger. On n'est plus légitime pour gérer le pays.
Oui, oui, et c'est l'un des vieux proverbes chinois, c'est de dire les montagnes sont très élevées et Pékin est très loin. Ce qui veut dire que l'administration locale, pour peu qu'elle fasse pas trop de bêtises, qu'elle soit pas trop corrompue, Pékin lui faut bien la paix, quoi. Donc il y a une espèce d'autonomie qui se développe et une rivalité entre les régions.
Ouais.
Mais
parce que c'est ça, si vous êtes un responsable local et que vous êtes pris la main dans le pot de confiture, ça risque de mal se passer, quoi.
Ah ça, vous avez, il va vous arriver, vous allez recevoir une balle dans la nuque et votre famille devra payer la balle.
Hein. Ouais.
C'est pas des blagues, hein.
Ouais.
Pam et on envoie la note de la balle à la famille. Hein. C'est-à-dire qu'on est déshonoré, quoi.
Ouais. Mais à la fois, c'est vraiment un système très particulier, parce que nous, on connaît pas vraiment...
Non, c'est pas tellement particulier, c'est-à-dire que vous avez trois niveaux de responsabilité d'indépendance, le niveau familial, où de plus en plus les gens s'occupent de leur famille, des enfants, etc. Puis le niveau social, ça c'est le niveau familial social, puis au-dessus vous avez le niveau économique, vous embauchez, vous débauchez, vous créez une affaire, etc. Et c'est à vous, le droit de propriété est bien respecté. Et puis en haut, vous avez le système politique. Et donc, tant que vous vous confinez dans les deux premiers, il vous arrive à rien.
Ouais.
Mais si vous commencez à dire non, la politique monétaire, c'est complètement nul, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'avait fait Ma, le patron d'Alibaba, on n'a plus entendu parler de lui pendant 6 mois, je crois, à mon avis, il a dû aller casser des cailloux quelque part en Ibérie.
Hein. Oui, oui. Bah,
donc,
d'ailleurs,
c'est
d'ailleurs
cette notion de la politique ne peut être, dans le fond, que faite par des gens qui... D'abord, sont formés à ça toute leur vie et ont un horizon à très long terme, 30 ou 40 ans. Donc, faut pas laisser les amateurs rentrer en politique.
Ouais.
Ce qui n'est pas une bonne idée, mais enfin, c'est comme ça.
Oui. Oui, parce que en fait, c'est vrai que c'est un système. Oui, nous, on connaît pas tellement ça. On n'a pas tellement
d'équivalent. On l'a connu quand on avait le suffrage censitaire.
Oui.
Pendant un siècle, nous, on avait un suffrage censitaire. Il y avait que les hommes qui payaient des impôts, donc il y avait 10% des gars qui votaient, quoi.
Oui. Mais il y avait quand même une participation démocratique, il y avait des gros affrontements quand même de partis politiques.
Oui, alors ça se passe de façon feutrée à l'intérieur du Parti communiste.
Oui.
Et de temps en temps, il y a un clan qui l'emporte, et hop, à ce moment-là, bon, on voit débarquer des gars qui vont changer les gens. Pendant, mais le fait, comme je ne sais pas comment il fait une centaine de millions de gens, le Parti communiste, mais en fait, vous avez des débats assez vifs et... organisé à l'intérieur du Parti communiste. Donc, c'est pas tellement... Contrairement à la légende, c'est pas Xi qui est là-haut qui décide « Alors maintenant, on va faire des petites cuillères en bois » ou j'en sais rien.
Ouais, ouais.
C'est, ça vient beaucoup du dessous. Et puis, Xi, à la fin, arbitre, quoi. Mais c'est, ouais. Je suis pas certain que toutes les décisions viennent de lui, quoi.
Oui, non, sans doute, oui.
Mais comment voulez-vous gérer un pays comme ça, sinon, ouais. S'il serait... Ça marchait pas.
Non, c'est clair. Et puis il y a aussi, c'est pas comme en France, on n'a pas tout à fait le même statut d'énarque en fait. C'est aussi.
Ah, mais c'est eux qui ont inventé l'idée. Les mandarins, c'était le truc dans la difficulté quand vous étiez dans la Chine antique, c'est que vous passiez des concours pour devenir fonctionnaire. Ça s'appelait mandarin. Et parfois il y avait une famille qui, il y avait un qui pouvait le passer. Donc pendant 7 ou 8 ans, il travaillait comme un fou pour devenir mandarin, ce qui était une promotion extraordinaire. Et s'il échouait, il était déshonoré, suicidé, quoi. C'était donc si vous voulez la classe la plus respectée en Chine, c'est l'énarque.
Ouais, mais je trouve qu'ils ont beaucoup de politiciens, mais avec des compétences très techniques.
Très techniques.
Ils ont beaucoup d'ingénieurs.
Dans le politburo là, vous je crois que sur je sais pas combien ils sont, il y en a 10 sur 12 qui sont des ingénieurs. Il n'y a pas un avocat, quoi. Parce que nous, on n'a que des avocats, quoi.
Oui, c'est ça. Et encore, même de moins en moins aujourd'hui. Hein. Si on regarde les bancs de l'Assemblée.
Je vous ai raconté mon histoire de l'ENA qui veut faire une compétition contre Oxford et Cambridge à la rame, là.
Ah, je crois pas. Je crois que j'ai jamais entendu celle-là.
Voilà, il est jeune encore. Et donc, je vais vous le raconter. Donc, c'est Lena qui décide de lancer un défi à Oxford et Cambridge. Donc, ils envoient un type pour espionner ce que font Oxford et Cambridge. Le type revient en disant, on n'y arrivera jamais parce que chez eux, il y en a 8 qui rament et 1 qui gueule. Et chez nous, il y en a 1 qui rame et 8 qui gueule. Alors, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Donc, si vous voulez, nous, on a un peu, mais en même temps, les mandarins sont des... comme ils sont au service de l'État, ils sont plutôt plus proches des moines soldats dont je parle souvent, qu'on avait autrefois sous la cinquième, que des pantins qu'on a aujourd'hui, quoi.
Oui, là, effectivement, on a une culture, d'ailleurs, que même nous, on a eu, hein, c'est le côté serviteur de l'État. Là, on a, aujourd'hui, en France, on a plutôt des gens qui se servent,
qui se servent
de l'État
pour faire fortune, sans prendre de risque. Donc, là, ce qui se passe, évidemment, ça mène à la corruption, et en effet, le traitement de la corruption, si vous voulez, madame Anne Lauvergeon, 5 ou 6 ans après, ou 10 ans après, elle aurait déjà été jugée, quoi.
Oui. Alors, effectivement, ça, nous, on a une notion d'impunité de la classe politique. Pour le coup, je suis pas
juridique,
sûr.
Juridique, oui.
Oui, et juridique, je suis pas sûr qu'elle existe en Chine.
Ben, ça dépend si vous êtes dans le parti vainqueur, parfois, mais si vous êtes dans les vaincus et si on trouve des choses dans vos...
Oui. Si vous commencez à gêner un petit peu à l'intérieur, effectivement. Ça peut être...
Donc, mais ce qui est très étonnant, quand même, c'est que tous ces gens en Chine qui sont dans la politique ou qui s'en rapprochent, etc., ils sont tous extraordinairement patriotes chinois.
Oui.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Faut pas rigoler, quoi. C'est pas...
Ouais. Mais est-ce que c'est pas un petit peu risqué sur le long terme d'avoir un parti aussi puissant? C'est-à-dire, en fait, c'est un parti-État. C'est un État très puissant avec un parti très puissant. Alors, qui laisse quand même une certaine liberté économique.
Oui, économique, sociale, etc. est assez forte.
Mais qui a un contrôle sur la société. Est-ce que vous aimeriez, par exemple, qu'on ait un système pareil en France? C'est pas très libéral pour le coup.
Non, c'est pas libéral du tout, mais je signale que ce qu'on va nous coller là avec l'euro numérique, vous pourrez pas.
Je dis pas qu'on vit dans un monde libéral. Hein,
l'euro numérique, les reconnaissances faciales, tout ça, je suis pas certain que. Si vous voulez, ce que je dis aux gens, moi, c'est que ben, d'accord, c'est pas. En Chine, l'économie, le social sont libres et le politique, c'est. Pas libre du tout. Mais quand je suis à Hong Kong, je suis beaucoup plus libre que quand je suis en France, parce que la politique hongkongaise, je ne peux pas avoir d'effet sur elle. Mais social et économique, là, je suis libre complètement. Parce que quand je suis en France, social, je ne suis pas libre, économique, je ne suis pas libre, et quand je vote contre un traité, je l'ai dit à droit quand même.
Oui.
Donc on me dit, vous avez eu le droit de voter, je leur dis, oui, j'ai voté contre, et puis j'ai eu le contraire. Quoi. Donc,
oui,
donc on me raconte un conte de fées, que les gens qui sont au pouvoir seraient là pour respecter mes volontés et mes désirs. C'est
pas
vrai du tout.
Et on n'a pas l'impression que ce soit le cas, effectivement.
Non, non. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on n'est pas libre socialement, on n'est pas libre économiquement et on n'est pas libre politiquement, puisqu'on s'est fait brouter par une série de bons à rien qui, maintenant, ont capturé le pouvoir et n'ont aussi pas leur enlevé. Donc,
ouais.
Le système juridique n'est plus... en France aujourd'hui, il y a un droit qui est supérieur au droit français, qui est le droit européen, quoi, ce qui est absolument extraordinaire que dans un pays, il y ait quelque chose qui soit supérieur à la Constitution française. C'est même pas possible.
Mais
pourtant,
c'est
ce qu'ils ont fait.
Et quand je vois au niveau européen la politique que l'Union européenne, notamment la Commission, veut avoir vis-à-vis des réseaux sociaux, bah, ça me fait directement penser à un système qui se rapproche de la Chine communiste. C'est-à-dire que sur la Chine communiste, il y a la surveillance, il y a tout un tas de discours interdits.
C'est bien mieux. La Chine communiste, comme TikTok et tout, c'était pas bon pour les enfants. Ils ont dit TikTok, vous le faites pour le monde entier, mais pas pour les Chinois. Hein.
Ouais.
Donc TikTok...
ils ont une vision d'un TikTok beaucoup plus éducatif en Chine.
Voilà, un TikTok beaucoup plus éducatif. Donc,
ouais. Qui bidouille les algorithmes dans ce sens.
Dans son sens, pour que les... Alors,
nous,
je
ne
dis pas que,
quoi,
c'est bien ou c'est mal,
les
gens me disent que ce que je sais, c'est que depuis 20-30 ans, le niveau de vie des plus défavorisés a beaucoup baissé en France, et il a explosé à la hausse en Chine. Donc je me dis, ils ont dû faire 2 ou 3 trucs qui sont plutôt mieux que ce qu'on a fait, nous. Quoi.
Ouais, tout à fait. Après, il y a une autre notion aussi que je trouve assez intéressante, parce que elle est fonctionnelle en Chine, visiblement, c'est le contrôle des capitaux. C'est-à-dire le fait que, bah, on peut quand même pas faire exactement ce qu'on veut en Chine, quand on est étranger, notamment. Alors, on peut avoir un compte, un petit compte en banque avec, avec 50 000 dollars dessus. C'est pas foncièrement problématique. Mais si vous voulez commencer à avoir une entreprise en Chine,
si vous
c'est
êtes
compliqué.
General Electric, faire une OPA sur une société chinoise.
Et voilà.
Bah ça, c'est une question de souveraineté, si vous voulez, et
C'est une vision assez protectionniste du capital.
Bah, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est une question de souveraineté.
Ouais.
Les Chinois ont énormément souffert dans les 200-300 dernières années d'une perte de souveraineté totale, d'un effondrement économique, etc. Et ils disent, si ça vous fait rien, maintenant, le capital maison, il sera sous le contrôle de Chinois, même individus, mais qui seront contrôlés même par l'État. Si j'ose dire, c'est une vision gaulliste, quoi.
Oui.
Sous le général de Gaulle, le type qui faisait des opéras sur les sociétés françaises, ça n'allait pas très loin, quand même.
Oui.
C'est donc oui, c'est un régime autoritaire, c'est un régime qui défend férocement la souveraineté nationale. Mais nous, on a décidé que c'était des choses très mal, et on est allé vers un abandon total de souveraineté économique. Je crains que ça finisse par nous retomber dessus, quoi.
Ouais.
Enfin, ça nous retombe dessus aujourd'hui, d'ailleurs.
Ouais. Et après, bah la contrepartie, c'est que quand même, ils sont dans un système extrêmement capitaliste.
Ah bah oui.
C'est-à-dire que, alors, on associe souvent, ça va être l'occasion de faire une petite différence doctrinale. On associe souvent libéralisme et capitalisme. Et vous expliquez souvent que, attention, le libéralisme, on en parle beaucoup en économie pour parler du commerce, pour parler de tout ça. Mais c'est la résultante d'une philosophie générale. Avant tout, le libéralisme, c'est une philosophie.
En fait, un truc juridique.
Et voilà, c'est une philosophie du droit. Et ça a des conséquences, forcément, d'un point de vue commercial, économique. Ça donne le capitalisme. Et en Chine, on a l'impression qu'on a le résultat, finalement. On a le capitalisme, mais on n'a pas forcément la philosophie juridique libérale.
Alors,
en premier lieu.
Par contre, ce qu'on voit très bien en Chine, c'est le droit de propriété est de plus en plus reconnu. Mmh. Au débat, si vous voulez, début du système communiste, tout le monde allait dans les champs et ça appartenait à tout le monde. Maintenant, ça devient de plus... Donc, il y a un approfondissement des droits de propriété. Et on se rend compte que dans le libéralisme, c'est le droit de propriété qui est quand même ce qui donne une certaine indépendance par rapport à l'État, quoi. Donc, ils sont loin d'être libéraux, mais on commence à avoir des... Alors, ce qu'ils n'ont pas, par exemple, c'est des jurys populaires, ça. Ils n'ont pas, mais nous, on l'enlève, hein. Donc, ça règle le problème. Ils ont une monnaie qui est bien tenue. C'est-à-dire que c'est assez facile d'épargner en Chine.
Ouais.
Donc, là aussi, c'est une bonne chose parce que ça permet des investissements. Si je devais oser une image, je dirais que, vous savez, il y a trois ou quatre grands principes de Locke, hein. Droit de propriété, liberté, bref, les quatre grands principes. Hein. Depuis, enfin, des impôts par les citoyens, depuis deux siècles, le socialisme et tous les autres systèmes essayent de brouter ces trucs-là pour redonner du pouvoir à l'État sans qu'il soit contrôlé. Vous voyez, donc le mouvement est une dégradation perpétuelle des principes de Locke un peu plus chaque jour. Et en Chine, c'est presque le mouvement inverse. Ils sont partis de la situation la plus.
Ouais.
Et ça s'améliore doucement dans l'autre sens. Donc, si vous prenez un instantané où vous dites, bon, il n'y a rien qui est très bien, mais si vous prenez le sens du mouvement, vous voyez que le mouvement vers de la Chine, vers
quand même davantage de liberté.
Davantage de liberté. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Singapour aussi. Donc, si vous prenez des photos, c'est pas bien. Si vous prenez des films, vous voyez bien la direction des deux, quoi.
Ouais. Et alors moi, ce que je trouve assez fantastique, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec les voitures, c'est le système extraordinairement concurrentiel. Encore une fois, plus de marques de voitures en Chine que dans le reste du monde. Et je voyais, alors c'était un petit reportage en Chine de la chaîne Génération Do It Yourself qui a sorti ça il y a une semaine ou deux, où ils faisaient un petit voyage notamment à Shenzhen, donc ils regardaient tout ce qui se passait. Toutes les startups où les types ils conçoivent des trucs sur leur ordinateur, ils ont des imprimantes 3D, ils font des trucs directement dans leur bureau, ils ont accès à tout un tas de composants au marché d'à côté, c'est-à-dire qu'on a des séries d'immeubles où on a littéralement toutes disponibles directement dans la journée, toute la chaîne de production de n'importe quoi. Vous voulez expérimenter un robot, un drone, n'importe quoi, vous avez tous les composants à côté. Là où il y a une certaine rigidité chez nous dans ce qu'on appelle la supply chain, la chaîne d'approvisionnement, où on a des livraisons, ça peut prendre un mois. Là, c'est beaucoup plus rapide.
Ça, c'était Henri IV. Chez nous, qui avait été chercher des tas d'artisans italiens à Venise, à Florence, etc., et qui les avait mis toutes autour du Palais Royal pour créer un endroit où tout serait disponible sur place. Et puis ensuite, ça donnait Louis XIII, puis on est arrivé à Colbert qui a foutu tout en l'air. Mais c'est donc cette idée de faciliter le travail de création.
Ouais. Et la logistique, tout simplement.
La logistique, elle est là, elle est très forte.
Ouais, et ça fait qu'on voit les types, alors ils conçoivent leurs trucs, du coup, sur l'ordinateur, et direct après, ils peuvent expérimenter leur robot ou je sais pas quoi dans le jardin. C'est-à-dire qu'on a directement, on a des types, on a l'impression qu'ils sont en compétition, mais que c'est
limite une question de temps. Et si ça marche, à ce moment-là, vous avez le gars qui peut vous prêter du fric, qui sera de l'autre côté de la rue, quoi.
C'est ça, voilà. Et là-dessus aussi, ça va un petit peu avec le contrôle des capitaux, il y a aussi une politique de répartition des capitaux, c'est-à-dire où est-ce qu'on va investir. Et il y a une dizaine d'années, c'était beaucoup sur l'immobilier, il fallait construire. Et justement, il y a eu, c'était en 2019 ou 2020, la crise immobilière, ou non, 2021, pardon, je dis une bêtise, c'était en 2021. Et là, en fait, l'État central dit, écoutez, l'immobilier, c'est bien sympa, mais enfin, ça sert plus à rien. Maintenant, il y a suffisamment de logements pour que tout le monde soit logé. Il y a même des immeubles complètement vides.
Alors, donc, ce qui se passe, qu'ils ont fait,
si ça vous
chose,
fait rien, on va faire autre chose.
Les sociétés qui avaient fait ces immeubles avaient emprunté de l'argent et tout le monde s'attendait à ce que, quand la crise arrive, l'État chinois sauve les pauvres gars qui avaient prêté de l'argent à ces sociétés. Mais rien du tout. Ils ont sauté comme des grands. On n'a pas aidé les gars.
Il y a eu des faillites, ouais.
Il y a eu des faillites et il y a des gars qui ont été ruinés. Donc, ça fait rentrer dans la tête des Chinois que l'immobilier, c'était peut-être pas la chose la mieux. De temps en temps, on pouvait perdre beaucoup d'argent, quoi.
Oui, bien sûr.
Tandis que nous, en France, dès qu'il y avait un problème, on mettait de l'argent public.
Ah oui, bien sûr.
Et comme ça, plus personne ne peut s'acheter d'immobilier. D'ailleurs,
on mutualise les pertes. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ouais.
Donc, si vous voulez, c'est un système extraordinairement compétitif qui devient de plus en plus, où la liberté d'entreprendre et donc la liberté de... Le droit de propriété augmente sans arrêt. Je regarde ça avec stupéfaction, parce que c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Et la vraie débat, et ça semble, je semble là aussi avoir eu tort, c'est que, est-ce qu'ils vont faire des inventions? Parce qu'en principe, l'invention naît de la liberté. Mais il y a une telle liberté au niveau en dessous, si vous voulez, ça grouille tellement que, si je veux dire, les inventions se passent malgré le Parti communiste. Vous voyez, c'est parce que tout se passe là, donc là-haut, tout le monde s'en fout.
Bien sûr.
Donc, si vous voulez, il n'est pas exclu qu'il devienne aussi de plus en plus inventif. Et oui, ça, ce sera ça.
Et effectivement, ça permet de faire deux minutes un petit tour sur une notion. C'est que, alors nous, de notre point de vue, j'ai beaucoup entendu, et par moment, je l'ai peut-être un petit peu cru d'ailleurs, on dit souvent que la Chine copie, mais qu'elle n'innove pas. Alors, c'est vrai que la Chine copie, mais elle est aussi capable d'innover. Et d'ailleurs, en fait, ce qu'ils font, c'est d'ailleurs, ils le font de manière totalement ouverte, c'est que ils font beaucoup de rétro-engineering, c'est-à-dire qu'ils vont acheter des pièces juste pour, en fait, les décomposer et savoir comment c'est foutu et comment les refaire et comment derrière les refaire mieux. Pour eux, c'est un gain de temps, d'argent.
Par exemple, ils achetaient les trains rapides allemands et puis ils le démontaient et puis ils refaisaient le même. Mais
ils ont acheté deux Boeing aussi.
Ils ont du mal, ils n'y arrivent pas là. Parce que c'est très compliqué, les Boeing et les Airbus. Mais bon, sur les trains, ils y arrivaient. Donc, ils ont fait d'abord les trains allemands, mais maintenant, ils ont amélioré le train allemand qui fait 400 km à l'heure à la place de faire 200 km à l'heure. Et donc, ils améliorent. Et puis, ils font des tas de trucs auxquels on n'avait pas pensé.
En fait, nous, effectivement, on a comme une espèce de pudeur par rapport à ça, et eux n'ont pas du tout la même perception, c'est-à-dire que pour eux, en fait, dupliquer quelque chose, ce n'est pas la même chose que voler. Nous, on a cette conception très ancrée de la propriété intellectuelle, de tout ça, c'est-à-dire que, bon, vous avez déposé un brevet, vous avez travaillé dur pour ça, c'est pas pour autant que je peux vous le prendre pour refaire un peu la même chose à ma sauce de mon côté. Eux, ils ont vraiment cette vision-là. Entre eux, ils se copient les uns les autres, ils essayent de copier ce qui marche aussi chez nous, et c'est pas du tout quelque chose qui est caché chez eux, c'est revendiqué.
Quand vous regardez dans l'art en Chine, vous avez eu des grandes périodes où ils ont fait des meubles admirables, des statues admirables, etc. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que donc 2, 3, 4, 10 siècles après, il y a des artisans qui ont comme but de faire aussi bien, de copier le truc qu'il y a 10 siècles. Quoi.
Ouais.
Et ça, c'est pas un truc. Nous, on essaye de faire des trucs nouveaux. Eux, oui, s'ils ont l'impression qu'il y a 10 siècles, on a atteint une espèce d'optimum de beauté ou d'efficacité, ils ont aucun problème à dire que c'était mieux il y a 10 siècles. Quoi.
Ouais.
Tandis que moi, j'en discute avec les hommes politiques souvent. Ils me disent, il faut faire des changements. Je leur dis, pourquoi ? Si ça marche bien, pourquoi vous voulez changer ? Par exemple, vous faites des changements dans l'éducation nationale depuis 40 ans et ça va de mal en pis. Donc, dans nos sociétés, on a l'impression que bouger, c'est bon en soi.
Oui, le mouvement est intrinsèquement bon. Oui.
Le mouvement est intrinsèquement bon, mais les Chinois, ils ne pensent pas ça du tout. Ils disent le mouvement est bon si ça améliore, mais si ça améliore pas, à quoi ça sert ?
Ouais.
Et donc, ils ont... Ça tient aussi du fait qu'ils ont un respect des anciens, en disant si celui-là réussit ça il y a 10 siècles, je dois être capable de faire pareil. Et c'est très, c'est pour moi ça surprend beaucoup parce que l'idée de c'est neuf, ça n'a jamais été fait donc c'est bien. Ça les intéresse pas du tout.
Oui, mais c'est une certaine vision conservatrice. D'ailleurs, le conservatisme est pas du tout incompatible
c'est
avec
Roger Scruton,
la modernité, mais c'est une espèce de filtre. C'est un filtre entre.
C'est un filtre en disant ça sert à rien de faire des trucs nouveaux qui servent à rien, qui sont laids, quoi.
Oui, tout à fait.
Bon,
et après, on peut expérimenter, voir si jamais ça marche, mais si ça marche pas, il faut savoir retourner en arrière, quoi.
Oui, nous, ce qu'ils font, c'est que ça marche pas et qu'ils le font subventionner. Alors, comme ça, c'est encore mieux.
Oui.
Parce que voilà.
Enfin, écoutez, voilà pour ce premier tour d'horizon, on fera peut-être une suite.
C'est
la semaine
de dire
prochaine.
Que c'est une civilisation différente qui est extraordinairement fondée sur le travail, sur la compétence, sur le service à rendre. Mm-hmm.
Et de plus en plus sur l'innovation.
On va sur l'innovation, comme on le voit. Donc,
Schumpeterien.
Nous, au moment où on s'endort, c'est curieux de voir la Chine se réveiller et reprendre toutes nos valeurs.
Oui, tout à fait. Et c'est intéressant de voir aussi la réaction des États-Unis parce que depuis quelques années, ils semblaient être un petit peu sur leur nuage en se disant personne ne peut nous atteindre, de toute façon, on est les meilleurs, etc. Aujourd'hui, sur les secteurs de pointe, c'est globalement effectivement les meilleurs, mais ils se disent il y a quand même les Chinois dans le rétro, faut faire gaffe les copains.
Et voilà. On le voit bien. Hein.
Ils sont nombreux, ils sont de plus en plus forts. Donc faut faire attention à cela. Et nous, pendant ce temps-là, on se dit bon bah on va peut-être remettre un truc sur les bouchons de bouteilles en plastique.
J'ai vu que quel est le cornio dans la Commission européenne qui a fait passer une réglementation pour qu'on mette chaque fois que je verse de l'eau avec la bouteille, j'en fous partout, ça m'énerve. Quel est le cornio? J'aimerais bien. Moi, je trouve que quand il y a des changements qui sont faits comme ça, on devrait mettre le nom du gars qui l'a imposé. Pour qu'il soit déshonoré à jamais.
C'est pas faux, ouais. Bah, ça, typiquement, c'est un changement plutôt malvenu, ça. C'était mieux avant, ça. les bouteilles en plastique étaient mieux avant.
Il n'y a pas de doute.
Et alors, pour terminer cette émission, je renvoie les gens vers ce magazine du Point. Une fois n'est pas coutume, je fais une petite promotion pour le Point parce qu'ils avaient fait un numéro, je crois que c'était le numéro de décembre, sur la Chine, que j'ai trouvé très franchement assez bon, assez complet. Il y a vraiment beaucoup d'informations et j'ai trouvé ça assez qualitatif, sans concession sur le régime chinois. Plutôt critique hein, par principe, c'est pas surprenant, mais quand même assez honnête dans son ensemble. Donc voilà, j'ai plutôt apprécié. En tout cas, j'ai appris plein de trucs.
C'est-à-dire qu'il faut que les gens s'intéressent à la Chine. D'abord, parce qu'ils vont devoir de plus en plus y investir, donc il faut qu'ils se familiarisent.
Ouais.
Et pour comprendre un peu le génie de ce peuple, quoi, qui est tout à fait étonnant, qui est là depuis 4 ou 5 000 ans. Donc, vous pouvez pas rester ignorant sur ce qu'est la Chine. Oui. Aujourd'hui, ça va devenir de plus en plus un élément essentiel dans nos vies.
Oui, bien sûr.
Donc, que vous soyez ami ou pas, ça n'a qu'une importance, mais il faut que vous soyez au courant.
Tout à fait. Et ben voilà, merci pour cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés.
Merci beaucoup.